Bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins.
Hey, you know what?
Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins sont réalisés cette semaine par Mydia Portis-Guérin avec sa sainteté Clément Daté à la technique et préparé par Geneviève Méric, Julien Tricard, Mathilde Unger, Géraldine Mosna-Savoie et Adèle Van Rett. Adèle, qui à 10h50 vous parlera de séparation et de civilisation avec Paul Trouillas dans le journal des Nouveaux Chemins. En ce qui nous concerne, c'est le début ce lundi d'une semaine sur la question des origines dans les Nouveaux Chemins de la connaissance. De l'origine à la Genèse, de l'univers à Dieu, du monde au désir de sa cause, c'est au pluriel à tous égards qu'il faut écrire « origine », car l'impasse inévitable à laquelle nous sommes conduits quand on s'interroge de bonne foi sur ce qu'est l'origine, trouve ou ne trouve pas sa porte de sortie dans les réponses que la science, la religion, la peinture, voire la philosophie, essaient de lui apporter. L'origine est la cause, le fondement, la source vive, le berceau, le commencement, la création, la naissance, la résolution, deux fois mystérieuse du mystère de l'existence. D'Einstein à Gustave Courbet, d'Apollinaire à Hannah Arendt, l'entreprise insensée de trouver un début n'a en elle-même pas de fin. Demain mardi, Pierre Gibert vous parlera, nous parlera de la Genèse ou des Genèses, puisqu'il y en a plusieurs dans la Bible. Mercredi, le physicien Étienne Klein évoquera pour vous le discours de l'origine de l'univers. Jeudi, le philosophe Étienne Tassin reviendra sur la question de l'origine, du commencement, c'est-à-dire de la natalité, chez Hannah Arendt. Vendredi enfin, c'est l'origine du monde selon Gustave Courbet que nous regarderons de près, en compagnie de Thomas Schlesser et Michel Haddad. Mais ce lundi, tout de suite et maintenant, parce qu'il faut bien commencer et qu'il faut bien commencer par le début, c'est à un premier voyage en amont de toute chose que nous vous convions, en compagnie de l'astrophysicien Jean-Pierre Luminet, auteur entre autres de deux volumes passionnants quoique ardus, disponibles en folio sur le destin de l'univers.
Avant la mer, la terre et le ciel qui couvrent tout, la nature dans l'univers entier offrait un seul et même aspect. On l'a appelé le chaos. Ce n'était qu'une masse informe et confuse, un bloc inerte, un entassement d'éléments mal unis et discordants. Il n'y avait pas encore de titan pour donner sa lumière au monde. Phébé ne réparait pas les cornes nouvelles de son croissant. La terre n'était pas suspendu dans l'air environnant ni équilibré par son propre poids. Amphitrite n'avait pas étendu ses bras tout le long des rivages. Partout où il y avait de la terre, il y avait aussi de la mer et de l'air. Ainsi, la terre était instable, la mer impropre à la navigation, l'air privé de lumière. Aucun élément ne conservait sa forme. Chacun d'eux était un obstacle pour les autres parce que, dans un seul corps, le froid faisait la guerre au chaud, l'humide, au sec, le mou, au dur, le pesant, au léger. Un dieu, avec l'aide de la nature en progrès, mit fin à cette lutte. Il sépara du ciel la terre, de la terre les eaux, et il assigna un domaine au ciel limpide, un autre à l'air épais. Après avoir débrouillé ces éléments et les avoir tirés de la masse ténébreuse en attribuant à chacun une place distincte, il les unit par les liens de la concorde et de la paix. La substance ignée et impondérable de la voûte céleste s'élança et se fit une place dans les régions supérieures. L'air est ce qui en approche le plus par sa légèreté et par sa situation. La terre, plus dense, entraîna avec elle les éléments massifs et se tassa sous son propre poids. L'eau, répandue alentour, occupa la dernière place et emprisonna le monde solide.
« Bonjour Jean-Pierre Luminet.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. C'est un plaisir de vous accueillir pour la première fois pour parler d'origine et de commencer avec vous donc cette semaine sur l'origine ou les origines. Le texte qu'on vient d'entendre n'est pas de vous, Jean-Pierre Luminet, mais vous le connaissez bien.
On aura reconnu les métamorphoses de d'Ovide.
Oh, tout le monde ne les aura pas reconnues, mais pourtant il faudrait que ce soit le cas. Les métamorphoses d'Ovide, un chef-d'œuvre d'Ovide, dans lequel il s'aventure ici à décrire le monde avant la création, il faut bien le dire, même si on est dans un registre qui n'est pas celui du monothéisme qui nous est familier. C'est un texte dont intuitivement, nous qui n'y connaissons rien, nous nous sommes dit que on pouvait s'en servir pour décrire l'instant d'avant le Big Bang. Qu'est-ce que l'astrophysicien, poétologue que vous êtes en pense, Jean-Pierre Luminet?
Oui, en tout cas, le texte d'Ovide est une magnifique illustration du fait qu'on trouve chez tous les peuples, de toute culture et de toute civilisation, des récits sur la création du monde avec certains archétypes que l'on peut avoir sur un élément primordial, une idée, un dieu. Voilà. Alors, bon, par exemple, chez les Grecs, on peut trouver l'eau, on peut trouver le feu chez Héraclite, à l'origine de toute chose. Et chez Ovide et chez quelques autres, on trouve le chaos, c'est-à-dire le vide. Alors, c'est vrai qu'il y a certaines résonances avec la cosmologie la plus contemporaine, qui, elle, s'élabore non pas sur le mythe, mais sur des théories de physique fondamentale, comme la relativité générale et la physique quantique, et puis qui se confronte à des observations, puisqu'on a aujourd'hui des télescopes et des moyens observationnels qui nous permettent de remonter très très loin dans le passé de l'univers. Ne jamais pouvoir cerner véritablement l'origine, mais essayer de s'en approcher. Voilà. Alors il est vrai que donc au-delà du modèle dit standard de Big Bang qui raconte non pas l'origine de l'univers mais l'évolution de l'univers à partir d'un moment que les physiciens peuvent comprendre, ce qui est pas du tout la même chose que l'origine, n'est-ce pas ? Ce récit marche fort bien pour expliquer la formation, l'origine des particules élémentaires, puis l'origine des atomes, puis l'origine des étoiles, l'origine des galaxies, l'origine du système solaire, l'origine de la Terre, etc. etc. Donc il y a effectivement le mot origine que l'on peut utiliser au pluriel. Et il reste maintenant l'origine avec un grand O qui serait l'origine du tout, c'est-à-dire l'origine des origines, voilà. Qui, pour beaucoup de physiciens, en tout cas pour moi aussi, reste d'ordre métaphysique, parce que si l'origine avec un grand O, l'origine unique, c'est la cause première, elle restera à jamais métaphysique, c'est-à-dire au-delà de la physique. Alors ce que fait la science d'aujourd'hui, l'astrophysique, la cosmologie, c'est d'essayer de cerner la question en s'en approchant, mais en sachant que c'est hors d'atteinte.
Commençons par là. L'origine en question, donc, elle est introuvable. L'une des leçons qu'on peut retirer des recherches et de ce rapport asymptotique à l'origine et au Big Bang qu'on arrive à penser, à décrire, à photographier même maintenant, l'une des informations, peut-être la première leçon qu'il faut retirer de tout cela, c'est que l'origine en elle-même est introuvable. Et pourtant, les recherches nous conduisent à penser sa nécessité. Au fond, on est conduit par la recherche, Jean-Pierre Luminet, à atteindre un seuil au-delà duquel on ne peut pas aller. On est conduit par la recherche à penser ou à connaître quelque chose qui n'est pas connaissable, à vouloir connaître ce qui n'est pas connaissable.
Oui, c'est la démarche naturelle de la science, enfin, quelle que soit la discipline en question, que d'essayer, à partir du moment où on s'interroge sur les structures observées dans l'univers, qu'il s'agisse de structures physiques, matérielles ou structures biologiques, par exemple, s'interroger sur la formation de ces structures. Et la formation, donc, implique nécessairement une origine. Mais, je le répète, la science, lorsqu'elle parle de l'origine de telle ou telle structure, ne peut pas traiter de l'origine absolue, de l'origine première. Tout modèle scientifique suppose une formation, une évolution à partir de choses qui sont déjà préétablies. Et lorsqu'il s'agit de l'origine de l'univers dans son ensemble, l'origine peut-être de l'espace, du temps, de la matière, etc., il y a encore un gros point d'interrogation dans les modèles scientifiques qui font aujourd'hui le consensus.
Point d'interrogation par définition.
Par définition, je dirais tout de même par définition provisoire. C'est-à-dire, on fonctionne toujours dans le cadre d'un certain paradigme scientifique. Aujourd'hui, le paradigme scientifique pour aborder, pour approcher ces questions, c'est le modèle du Big Bang, le modèle dit standard, qui fonctionne tout de même assez bien, puisque on arrive à remonter, disons, au premier, de façon plausible, vraisemblable et vérifiable expérimentalement, au premier 10 milliardième de seconde. Après, alors là, il faut commencer à mettre des guillemets sur tous les mots que je vais utiliser, le mot après déjà, après l'hypothétique temps zéro qui serait justement le Big Bang lui-même. Mais en disant ça, on se place dans le cadre de la cosmologie dite relativiste, issue de la théorie de relativité d'Einstein et agrémentée, modifiée, améliorée par quelques principes de la physique de l'infiniment petit, la physique quantique. Et on sait que ces théories cessent d'être valables. Il y a une sorte de mur de la connaissance qu'on appelle le mur de Planck. À partir duquel on sait que l'univers, dans cette phase du temps de Planck, cette phase antérieure, n'est plus descriptible par la physique compréhensible et connue aujourd'hui. Il faudrait aller au-delà de la physique. Voilà. Alors donc, c'est dans le cadre de la cosmologie relativiste standard, le mur de Planck est une limite absolue à la connaissance et donc voile totalement une origine possible du monde.
Est-ce qu'il appartient à la physique, Jean-Pierre Luminet, d'aller au-delà de la physique ou est-ce que c'est, comme dirait Wittgenstein, ce dont la science ne peut parler, il faut le taire, pour reprendre cette tournure wittgensteinienne, ce dont on ne peut parler, il faut le taire. Est-ce qu'au fond, est-ce qu'il appartient à la physique de s'occuper d'un objet qui, tant qu'elle ne parvient pas à le connaître, demeure métaphysique ? Est-ce qu'il appartient à la physique de traquer cet objet ? Ou est-ce que c'est le propre, pardonnez-moi, de la religion, ou bien, comme on l'a entendu avec Ovide, de la poésie, tout simplement ?
Oui. Alors, même si j'adore cette phrase de Wittgenstein, et Wittgenstein en général, je pense quand même que le but de la physique, c'est d'essayer toujours de dépasser ses propres limites.
Se dépasser elle-même, de devenir métaphysique.
Il y a quelques siècles, par exemple, on ne pensait pas que la physique soit capable de parler de façon pertinente, par exemple, de l'origine de la Terre, ou de l'origine du système solaire, ou de l'origine des étoiles, ou de l'origine des galaxies. Aujourd'hui, elle le fait. Donc, la science ne fait que repousser constamment ses propres limites. Alors, justement, je reviens une dernière fois peut-être sur les modèles de la cosmologie relativiste. Aujourd'hui, on essaie précisément, à partir du moment où il y a quelque chose d'indépassable qui serait sur le mur de Planck, c'est un obstacle que les physiciens essaient de surmonter. Et pour le surmonter, ça veut dire quoi ? On peut espérer, c'est peut-être un fantasme, on ne le sait pas encore, mais on peut espérer élaborer une théorie encore plus performante. Par exemple, mariant la physique quantique avec la théorie de la relativité générale, avec la théorie d'Einstein, pour élaborer des théories dites de gravité quantique qui sont aujourd'hui en construction dans nos laboratoires, où cette fois-ci le problème de l'origine va se poser d'une façon radicalement différente, puisque ces théories éliminent la notion même de Big Bang et commencent à imaginer effectivement un avant le Big Bang. Ce qui fait qu'une origine dans ces modèles-là, l'origine serait peut-être repoussée une fois de plus, mais pas repoussée dans un temps de Planck inaccessible parce que inaccessible correspondant à des énergies infinies. Elle serait repoussée tout simplement dans un passé infini parce qu'on retrouverait l'idée peut-être d'un univers éternel qui n'est pas inscrit ni dans le temps ni dans l'espace. Et alors justement, le texte d'Ovide était particulièrement intéressant en faisant allusion au chaos et au vide dont sortiraient effectivement les éléments et la structuration dans ces nouveaux modèles d'avant Big Bang. Je répète qu'ils sont extrêmement encore en construction, extrêmement provisoires, mais ce sont des pistes, je pense, de réflexion intéressantes. Il y a l'idée, je le répète, que notre univers a largement existé avant le Big Bang dans un état extrêmement différent. Il a connu ses évolutions. Et au cours, par exemple, d'une phase de contraction généralisée, il serait passé dans une sorte de petite boîte noire quantique où toutes ses propriétés auraient été reprocessées. Je ne sais pas si le terme est correct, si le terme est français, mais on me comprendra. Et pour donner lieu à l'univers actuel que l'on essaie de reconstituer.
Mais le simple fait de dater le Big Bang, arrêtez-moi, 13 milliards 700 millions d'années.
Exactement, oui.
Alors, le simple fait de dater le Big Bang donne à celui qui le date le sentiment qu'au fond, c'est pas grand-chose. C'est un mot, c'est une expression. 13 milliards 700 millions d'années, bon, qu'en était-il ?
Oui,
qu'en était-il de ce qui le précède ? Est-ce qu'au fond, le Big Bang n'est pas un événement, non pas anodin, naturellement, mais un événement certes créateur, mais qui, en aucun cas, ne peut être confondu avec le commencement de toute chose, ou la radicalité d'un commencement, c'est-à-dire d'un commencement qui créerait le temps, c'est-à-dire un commencement en deçà duquel il n'y aurait rien. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion des termes ou une utilisation abusive du terme de Big Bang quand on le présente comme le commencement radical de toute chose, qui en lui-même d'ailleurs est une contradiction puisqu'on a toujours fondé à demander ce qu'il y avait avant le commencement, à la façon dont Alain disait à Lamartine, Lamartine disait « autant suspend ton folle », Alain lui disait « oui mais pour combien de temps ?» Jean-Pierre Luminet.
Oui, c'est d'ailleurs l'une des critiques épistémologiques que l'on a faites, et philosophiques d'ailleurs, que l'on a faites au modèle de Big Bang lorsqu'il a été présenté pour la première fois dans les années 1920-1930 par de hardis penseurs qui allaient d'ailleurs plus loin que Einstein lui-même, puisque n'oublions pas que Einstein, le père de la relativité, qui permet de faire de la cosmologie relativiste, c'est-à-dire d'élaborer des modèles de l'univers dans son ensemble. Le premier modèle qu'Einstein a proposé était un modèle d'univers éternel qui n'avait pas d'origine, qui n'avait pas de commencement. Et ce sont Alexandre Friedman et Georges Lemaître, deux scientifiques de génie un petit peu méconnus, sur lesquels j'ai écrit un petit ouvrage d'ailleurs, qui ont réalisé que la théorie de la relativité permettait de démontrer que l'univers en fait était en évolution et avait une histoire. Et à partir du moment où il avait une histoire, on se pose forcément la question sur le début de l'histoire. Et il se trouvait que en mettant en conjonction à la fois la théorie elle-même et puis des observations, qui étaient essentiellement les observations montrant que l'univers était en expansion, en remontant le film à l'envers, si l'univers est en expansion dans le futur, ça veut dire que dans le passé, il était en contraction. Et donc, en extrapolant cette idée, la contraction part de quelque chose, peut-être pas infiniment petit, mais de quelque chose d'extrêmement petit, qui a été baptisé beaucoup plus tard Big Bang.
Mais est-ce que petit, c'est pas déjà trop? Est-ce que ça n'est pas déjà quantifiable au fond? Est-ce que la qualité de petit n'étant pas déjà une taille, étant déjà une taille, n'est pas impropre pour qualifier cet instant-là? Est-ce qu'au fond il n'y a pas un saut qualitatif?
Oui, vous avez raison.
Vous voyez ce que je veux dire?
Oui. Alors on va dire petit par rapport à la taille de l'univers actuel, bien entendu. Mais alors il faudrait un référent, effectivement, d'une sorte d'étalon de longueur absolue pour dire ce qui est petit et ce qui est grand. Si l'univers d'il y a 13,7 milliards d'années était petit, il était petit par rapport à quoi? C'était l'univers, donc il était gigantesque aussi, puisque par définition, il contenait toutes choses. Toujours est-il que, malgré tout, en extrapolant les équations de la relativité et les observations sur l'expansion de l'univers, Georges Lemaître, que je peux appeler qualifier réellement d'inventeur du Big Bang, avait proposé donc en fait la notion plutôt d'atome primitif, c'est-à-dire l'idée que dans un passé lointain, mais pas infini, de l'ordre justement de 15 milliards d'années, l'univers dans son ensemble est ressembler à une sorte d'atome, pas un atome aussi petit que les atomes d'aujourd'hui, qu'il appelait l'atome primitif, et selon lui, les processus de radioactivité, de désintégration de cet atome auraient produit, dans un récit d'ailleurs qui ressemble relativement à celui de Ovid, mais étayé évidemment par une argumentation scientifique un peu plus solide, qui aurait donné successivement les particules élémentaires, les atomes, les étoiles, les planètes, et voilà, et la suite de toutes les belles choses.
Venons-en. Justement,
Queneau, justement.
Belle chose. Vous citez Queneau, on va entendre Queneau. Notre lecteur de la semaine, Georges Kless, a interprété Queneau. Vous allez entendre, d'ailleurs, chers auditeurs, en entendant ce texte, reconnaître à Georges Kless le mérite qui est le sien de l'avoir lu. Voici la version que Raymond Queneau propose de ce que vous appelez, Jean-Pierre Luminet, avec d'autres, l'atome primitif.
Hyper leurs quatre trucs éclatements burlesques. Atomes insuffisants, atomes gigantesques. Rien n'a rien suffisant tout autour romanesque. Le monde était moins vieux que les supputations et la terre moins grue que quelques putations. La terre était bien vierge et bien bouillonnaveuse. Quelques constellations se penchent un peu baveuses sur des destins humains et des destins d'homards. Tandis que le miel coule en la fesse argentée des coquilles bleuies d'âge en âge hantées par un Diogène ermite à des noms raccordés. Bernard de tout succinct, crabe de tout refus, tandis que le salpêtre aux frontières s'éloigne des sources de soleil, très indistincts témoignages que des brouillons plus précis étalés. Jeunesse, ô jeunesse nébuleuse. La terre t'a compté en tes éloignements, et les muscles du sol se striaient savamment en suivant la part fauve à la course impérieuse réservée en l'instant par un calcul d'algèbre. Autrefois, les chiffres hameçons de zéro, infiniment variés, mijotaient en l'atome, indéfiniment nus, indéfiniment sots. Mais leur compte était bon, et les voici vaillants, chevauchant l'explosion. Ô jeunesse, que le graphe était beau, sillon d'entre tes fesses, nébuleuse obstinée en ton éclatement. Jaillissant d'un point cru, du zeste de tous les mondes, encore inépluché, encore tout enfant. Et les ombres bagarraient en leur solitude, et les voici vainqueurs, chevauchant l'amplitude de l'abcès poinçonné, du germe jaillissant, de la croûte disloque et du feu magistral, de la pustule expue et du grain vertical. Et les voici connards en leur satisfaction de se joindre couillards en leur addition, de se retirer cons en leur soustraction et de se reproduire en multiplication et de bien s'effondrer en toute division, de grandir à fond de train en exponentiation et de se lambiner en simple logarithme. Jeunesse, ô jeunesse, ô quand un chatouillait deux sans savoir que son foutre en extrairait le tiers, quand les signes d'algèbre amollissaient leur jeu, quand les égalités reposaient dans le foie alors analcolique en l'atome adipeux et que l'informe quatre petits spermatozoïdes attendait de jouxter l'ovule arythmoïde, quand le pu des erreurs ne dégoulinait pas de la preuve par neuf ou de l'orgueil comptable. Ô jeunesse, alors à cette table où le néant bouffait le déjeuner instable des possibles conflits en une identité, survint la loi tranchante et indécomposable qui lança des trous d'être en l'indéfinité.
The rivers of
plus vieux que le Big Bang, la reprise disco des Rivers of Babylon par Boney M en 78. Et Jean-Pierre Luminet, qui est l'invité des Nouveaux Chemins de la Connaissance, pour commencer cette semaine sur l'origine ou les origines dont on vient d'entendre la version qu'en propose Raymond Queneau. Imaginons qu'on fasse du texte de Raymond Queneau une photographie poétique du vide quantique. Rien n'est plus plein qu'un tel vide. Quelle différence faut-il faire entre le vide et le néant ?
Alors oui, il y a effectivement une très grosse différence dans la physique d'aujourd'hui. Dans la physique classique pré-relativiste de Galilée et de Newton, il y a identification entre le vide et le néant.
C'est la physique du néophyte. C'est la physique de celui qui n'y connaît rien d'ailleurs. Ça reste la physique voilà. Du néophyte. Voilà. Nous sommes tous
donc,
au 19e siècle.
Voilà, donc vous me posez la question à quelqu'un, qu'est-ce que c'est le néant, qu'est-ce que c'est le rien,
qu'est-ce que c'est le vide, ben, comme
effectivement
synonyme.
Rien. Voilà. Dans la physique pertinente d'aujourd'hui, qui est par exemple la physique de la relativité générale et surtout la physique quantique, le vide, ça va être décrit par une expérience de pensée. Vous prenez une boîte et vous enlevez tout dans la boîte. Vous faites le vide dans cette boîte. Enlever tout, ça veut dire vous enlevez les particules élémentaires, les atomes, les champs de rayonnement, tous les champs de force possibles imaginables. Voilà. Je répète, dans la physique d'avant, cette opération aboutissait au rien, au néant. Pas très intéressant. Dans cette même expérience de pensée, dans la physique quantique, aboutit à la notion d'énergie du vide. C'est-à-dire, lorsque vous avez tout enlevé dans la boîte, il reste quelque chose.
Et ce quelque chose...
Il reste de l'énergie. Alors, l'énergie à son niveau fondamental, mais qui n'est pas zéro. Voilà, on va appeler ça donc l'énergie du vide, puisqu'on a effectivement fait le vide. Mais ce qu'il faut voir, c'est que cette énergie est riche de toutes les potentialités. Donc le vide d'aujourd'hui, qu'on appelle le vide quantique, est habillé quelque part secrètement de toutes les possibilités, de toutes les virtualités qui peuvent après se matérialiser. Alors cette
notion-là, une sorte de vacuité totipotente qui aurait tout en elle, tout en germe, comme l'infinité des mondes possibles qui
seraient contenus. Oui, ce qui est troublant, voilà. Donc ce sont des calculs très très complexes de la physique quantique qui aboutissent à ça. Ce qui est assez troublant, c'est de retrouver quelque part des idées de certaines anciennes cosmogonies, à la fois le vide chez certains philosophes grecs, mais encore plus dans certaines philosophies orientales, où le vide était effectivement potentiellement riche de toutes les choses qui pouvaient surgir dans l'univers.
Ça, c'est le taoïsme, hein, ça.
Oui. Principalement. Entre autres, oui. Eh bien, aujourd'hui, donc, ce vide quantique, il est également riche de toutes ses potentialités. Donc, à partir du moment où on a de l'énergie du vide quantique, cette énergie, soit par fluctuation spontanée et aléatoire, peut se matérialiser en objets, c'est-à-dire en particules élémentaires, en couples de particules et d'antiparticules, etc. Et quand on importe cette notion donc, de vide quantique dans les premiers instants, compréhensible en tout cas de l'univers, c'est-à-dire à l'époque à peu près du Big Bang, où on savait justement que les phénomènes quantiques étaient très importants, donc le vide quantique devait jouer un rôle fondamental, eh bien il y a la possibilité que ce soit notre univers entier, notre espace-temps-matière, qui soit lui-même une énorme fluctuation de l'énergie du vide quantique. Et on arrive maintenant, dans de nouvelles théories en développement, à l'idée de ce qu'on appelle le multivers. Alors le multivers, ce serait quoi ? Il y a plusieurs variantes du multivers, je vais simplement décrire très rapidement la plus simple d'entre elles, si l'on peut dire que c'est simple. C'est donc en fait une réalité plus profonde que l'espace et le temps, serait donc ce vide quantique avec son énergie qui fluctue de façon spontanée et aléatoire. Un petit peu comme un océan bouillonnant d'énergie avec des vagues qui produisent de l'écume de façon aléatoire. On ne peut pas le décrire de façon déterministe, mais seulement de façon probabiliste. Voilà. Et bien donc ce vide quantique fluctuant, chaque fluctuation représente une certaine probabilité d'apparition spontanée d'un espace-temps-matière, c'est-à-dire d'un univers. Dans ce nouveau scénario de cosmogénèse quantique, notre univers ne serait qu'une goutte de l'écume, une goutte particulière de l'écume de cette énergie bouillonnante du vide quantique, avec donc la possibilité qu'il y ait d'autres gouttes de l'écume, et donc d'autres univers, nés dans des conditions évidemment très différentes du nôtre, avec des propriétés très différentes, avec des histoires complètement différentes, mais fait à partir du même substrat qui serait donc cette énergie du vide quantique.
Les autres univers dont vous parlez, Jean-Pierre Lumine, oui. Dans la théorie que vous développez, sont-ils des univers existants ou bien des univers possibles ? Sont-ils représentés comme existants ou bien comme possibles ? Je vous pose cette question parce que si le vide est plein, on est dans un rejet. Enfin, si le vide est de l'ordre d'une plénitude, en tout cas si le vide n'est pas le rien ni le néant, alors on est dans un registre qui est celui de la plénitude, où en philosophie on parlerait d'immanence au fond. Si en revanche il y a du néant qui viendrait cercler le vide, on peut envisager que les univers dont vous parlez ne soient que des univers en gestation, des univers éventuels, des univers possibles, mais qui n'auraient pas forcément accès à l'existence. Qu'en est-il dans la théorie que vous développez ?
Oui, ben la théorie a osé franchir le pas en supposant l'existence légitime, l'existence réelle de ces univers. Voilà, évidemment qu'ils ne seraient pas connexes aux nôtres, qu'ils ne seraient pas dans les mêmes dimensions que les nôtres, mais qu'il y aurait une véritable existence réelle. Et là, on se heurte épistémologiquement au problème de pouvoir tester ces théories, pouvoir effectivement mettre en évidence l'existence des autres univers. Pour l'instant, on n'a qu'un moyen expérimental de mettre en évidence cette hypothèse du multivers, mais malgré tout, la théorie suppose l'existence réelle d'un ensemble peut-être infini d'univers qui sont tous formés à partir de ce substrat qui serait le vide.
Je puis sans doute interrompre, par la pensée, le cours de ma vie intérieure, supposer que je dors sans rêve ou que j'ai cessé d'exister. Mais à l'instant même où je fais cette supposition, je me conçois, je m'imagine veillant sur mon sommeil ou survivant à mon anéantissement, et je ne renonce à me percevoir du dedans que pour me réfugier dans la perception extérieure de moi-même. C'est dire qu'ici encore, le plein succède toujours au plein, et qu'une intelligence qui ne serait qu'intelligence, qui n'aurait ni regret, ni désir, qui réglerait son mouvement sur le mouvement de son objet, ne concevrait même pas une absence ou un vide. La conception d'un vide naît ici quand la conscience, retardant sur elle-même, reste attachée au souvenir d'un état ancien, alors qu'un autre état est déjà présent. Elle n'est qu'une comparaison entre ce qui est et ce qui pourrait ou devrait être, entre du plein et du plein. En un mot, qu'il s'agisse d'un vide de matière ou d'un vide de conscience, la représentation du vide est toujours une représentation pleine, qui se résout à l'analyse en deux éléments positifs. L'idée, distincte ou confuse d'une substitution, et le sentiment, éprouvé ou imaginé, d'un désir ou d'un regret. Il suit de là que l'idée de néant absolu, entendue au sens d'une abolition de tout, est une idée destructive d'elle-même, une pseudo-idée, un simple mot. Si supprimer une chose consiste à la remplacer par une autre, si penser l'absence d'une chose n'est possible que par la représentation plus ou moins explicite de la présence de quelque autre chose, enfin, si abolition signifie d'abord substitution, l'idée d'une abolition de tout est aussi absurde que celle d'un cercle carré. Les poètes et l'univers, c'est une anthologie de Jean-Pierre Luminet, disponible au Cherche Midi. Jean-Pierre Luminet, qui est notre invité du jour au début d'une semaine sur les origines. Jean-Pierre Luminet, que vaut selon vous cette l'intuition bergsonienne selon laquelle l'idée du vide, l'idée du rien, l'idée du néant, en fait c'est un faux problème qui naît d'une attente déçue. Bergson prend un exemple très simple, il parle d'un type qui va chercher des vers dans sa bibliothèque et qui tombe sur de la prose et qui, voyant de la prose, dit « ce n'est pas des vers ». Or il n'a pas vu une absence de vers, mais il désigne comme absence de vers, comme néant de vers, ce qui correspond à son attente déçue. Au fond, le néant n'est qu'une façon pour l'homme de prendre ses désirs pour des réalités, mais rien ne correspond à cette idée-là.
Oui, bon, je ne suis pas philosophe, mais bon, le peu que j'ai lu de Bergson m'a fait effectivement comprendre que Bergson avait une pensée profonde sur ces notions de vide, la notion de temps également. Alors on connaît, enfin en tout cas dans le milieu des physiciens relativistes, la petite controverse qu'il y a eu un moment entre Bergson et Einstein à propos justement de la relativité du temps, puisque avec la théorie de la relativité d'abord restreinte puis généralisée, Einstein proposait tout de même un bouleversement assez radical des paysages de l'espace et du temps, et sur la notion de simultanéité, et l'absence de simultanéité en fait dans la nouvelle physique relativiste. Et Bergson, évidemment, à l'écoute des changements de paradigme scientifique de son époque, a beaucoup réfléchi sur ces notions-là. Donc il a écrit ce fameux ouvrage « Durée et simultanéité » et avec quelques discussions au Collège de France, notamment avec Albert Einstein. Alors c'est vrai que parfois, bon, les langages du philosophe et les langages du scientifique ne sont pas tout à fait les mêmes, les modes de pensée ne sont pas tout à fait les mêmes, même si les mots utilisés peuvent être les mêmes, les acceptions ne sont pas tout à fait identiques, et il peut y avoir effectivement quelques mésententes. Voilà, donc je pense que la controverse qu'il y a eu d'ailleurs entre Einstein et Bergson s'est résolue de façon tout à fait amicale.
Est-ce qu'on peut quand même rappeler un tout petit peu les termes de cette controverse finalement dont Bergson fait la restitution dans Durée et simultanéité? Est-ce que Einstein et Bergson parlent véritablement le même langage? Est-ce qu'ils se situent au même endroit finalement quand Bergson parle d'un temps psychologique? Est-ce que l'alphabet bergsonien et l'alphabet einsteinien finalement ne sont pas différents au point de fabriquant des mots auxquels on attribuerait trop rapidement le même sens, conduire à des polémiques qui, au fond, n'en sont pas.
Oui, c'est ce que j'essayais de dire maladroitement précédemment, c'est qu'effectivement, sur les mêmes mots qui appartiennent au dictionnaire, le sens que l'on met sur les mots selon qu'on est philosophe ou selon qu'on est physicien n'est pas forcément le même. Et donc, je crois qu'effectivement, il y a eu la controverse qu'il a pu y avoir, en fait, est simplement une mésentente sur le temps dont parlait Bergson ou le temps dont parlait Einstein. C'est vrai que Bergson parlait essentiellement du temps psychologique. Le temps d'Einstein, c'était le temps de la physique. Et effectivement, ces notions, je crois que Bergson a dit des choses extrêmement justes, extrêmement profondes sur le temps psychologique. Et peut-être qu'il a voulu rattacher ses conceptions du temps psychologique au temps de la relativité d'Einstein. Et c'est là où les choses ont commencé effectivement à clocher un petit peu.
Et alors je renvoie dans votre livre Le Destin de l'Univers, dans le premier volume du Destin de l'Univers, oui. Jean-Pierre Luminet, en édition folio, hein, je renvoie pour plus d'informations, aux pages 89-90 dans lesquelles vous résumez cette polémique entre Bergson et Einstein. C'est quand même très utile d'avoir ça sous la main. Et je renvoie également à l'édition nouvelle de Durée et simultanéité de Henri Bergson, une édition assurée par mon camarade Élie Düring. Je dois dire, une édition très instructive avec un appareil critique formidable. Il faut avoir ces outils-là sous la main quand on se passionne pour ces objets et pour ces querelles. Néanmoins, quand Bergson parle d'un point, il dit, il parle d'un point, un point qui n'est pas quantifiable. Il dit, en ce point est quelque chose de simple, d'infiniment simple, de si extraordinairement simple que le philosophe n'a jamais réussi à le dire, et c'est pourquoi il a parlé toute sa vie. Est-ce qu'une telle intuition, une telle formule permet de qualifier le mur de Planck et la tentative que nous faisons ou que les physiciens et les astrophysiciens font de l'escalader ?
On pourrait effectivement y penser, sauf que le mur de Planck n'est pas un point, ce serait peut-être c'est un point qui aurait quand même une petite extension, puisqu'on peut même attribuer une taille dans les unités de longueur connues aujourd'hui, que ce sont le centimètre par
10
exemple.
10
puissance moins 33 centimètres pour la taille, ouais. Et puis s'il s'agit du temps, parce que le temps est mêlé à l'espace, c'est 10 puissance moins 43 secondes, donc vous voyez que c'est pas infiniment petit, puisque le point par construction est infiniment petit. Alors ça tout de même, l'idée de la du mur de Planck, c'est une idée qui est venue plus tard dans la version originale de la cosmologie relativiste, le modèle du Big Bang originel. En extrapolant la relativité, on aboutit effectivement à un point infiniment petit, ce qu'on appelle en mathématiques une singularité, qui annule toute possibilité de compréhension. Tout devient soit infiniment petit ou infiniment grand. Quand on met des quantités physiques dedans, l'énergie, par exemple la température, ça devient infiniment grand dans un volume infiniment petit. Et les physiciens savent bien que c'est une extrapolation anormale. Ça marque vraiment les limites de validité de la théorie. À partir du moment où, très rapidement, évidemment, les inventeurs du Big Bang comme Friedman et Lemaître se sont aperçus qu'effectivement, en extrapolant les équations, on aboutissait à l'idée d'un point singulier dont tout serait sorti. Et ils ont clairement dit, effectivement, c'est une limite de la théorie. Il doit y avoir des ingrédients supplémentaires qu'il faut rajouter pour essayer de mieux décrire, effectivement, la genèse de l'espace et du temps. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait allusion à l'idée d'atome primitif de Georges Lemaître. Déjà, l'atome, ce n'est plus un point. C'était une configuration certes initiale, mais qui n'était pas infiniment petite et déjà riche, effectivement, de toutes les potentialités de l'univers futur.
Philosophiquement, c'est un vrai paradoxe, puisque si l'atome, étymologiquement d'ailleurs, c'est l'indivisible,
oui.
C'est l'insécable,
absolument.
En même temps, s'il a une taille et qu'il est constituant de la matière, s'il est lui-même matériel, alors il doit obéir à une logique de divisibilité infinie. L'atome n'est pas métaphysique.
Oui, mais alors, bon, il faut aussi se replacer dans le contexte des connaissances de la physique de l'époque. Le modèle de Lemaître date du début des années 1930. La mécanique quantique était encore un petit peu balbutiante et encore en construction. Et donc, l'idée que Lemaître avait de cet atome primitif, c'est qu'il connaissait la radioactivité, c'est-à-dire le fait que certains atomes pouvaient se désintégrer spontanément. Donc, l'atome n'est pas si insécable que cela, effectivement. Et c'est comme ça que Lemaître avait envisagé, après, la naissance de structures dans l'univers. Depuis, évidemment, la physique quantique a fait d'énormes progrès. Elle a été incorporée dans les modèles de la cosmologie relativiste pour aller beaucoup plus loin que l'atome primitif. Et donc, quand on parle justement du mur de Planck, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une configuration initiale de l'univers qui est effectivement beaucoup plus concentrée, beaucoup plus petite, beaucoup plus quantique en fait que l'atome primitif de Lemaître, mais qui reste effectivement un petit peu l'équivalent du point du philosophe. Et pour le scientifique, c'est le point d'interrogation, sans faire de jeu de mots, en fait, c'est le grand point d'interrogation.
qui demeure donc le même d'un côté et de l'autre.
Sauf à l'éliminer complètement, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans comme des théories nouvelles de gravitation quantique ou de supercorde, enfin des noms que l'on peut mettre sur les pistes de recherche aujourd'hui. Ce point radicalement incompréhensible est carrément éjecté, éliminé de la théorie.
Ou à le dissoudre comme une mauvaise question, ce que fait Bergson quand il s'en prend à la question de savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien, ce qui pour lui est le prototype d'une fausse question. C'est le prototype d'une fausse question qui quantifie du temps, alors que le temps n'est pas spatialisable. Juste un point quand même, parce que je m'en voudrais de ne pas le dire aux auditeurs. La lecture de votre livre, Jean-Pierre Luminet, est une expérience pour le néophyte, l'ignare. Le lecteur ignare, dont je suis ici tout à fait représentatif, ignare en ces matières-là. Le sentiment de ne pas comprendre ce que vous dites s'accompagne toujours du plaisir de le lire. C'est-à-dire qu'on ne sort pas de l'impression de voyager dans des espaces, non pas intersidéraux, mais tantôt infiniment petits, tantôt infiniment grands, et en un sens aussi vastes l'un que l'autre. Il y a un vrai plaisir de lecture, mais c'est un plaisir qui s'accommode bizarrement du sentiment de ne pas tout comprendre. Et je me demande, alors, je ne sais pas si c'est une recette d'écriture ou si c'est parce que vous avez vous-même le don de raconter les choses et de donner à comprendre, ou en tout cas à aimer, ce qu'il est trop difficile de comprendre quand on n'a pas fait des études quand on n'a pas travaillé sur la physique quantique, tout simplement. Mais comment comprenez-vous que en toutes ces matières, quand bien même, par exemple, notre auditeur aujourd'hui serait complètement largué par ce que vous dites, etc., il peut y avoir un plaisir à en entendre parler.
Parce que je crois qu'il y a une charge poétique dans les mots. J'ai bien conscience d'avoir dit il y a quelques minutes des mots un petit peu compliqués.
Mais ils sont les bienvenus ici, il n'y a aucun problème.
Je crois qu'ils ont une charge, je crois, je suis certain, je le sais, depuis le temps que j'écris des livres, surtout que je fais des conférences, je vois la charge poétique que cela peut avoir. La charge poétique au meilleur sens du terme, bien entendu. Alors c'est vrai que dans mes ouvrages dits de vulgarisation, je préfère le mot de culture scientifique, j'essaie d'abord d'y mettre aussi une forme littéraire, parce que je suis très attaché à la littérature.
C'est une réussite.
J'ai publié de la poésie, j'écris des romans aussi. Pour moi, raconter la science, c'était aussi une forme de roman. D'ailleurs, quelque chose m'a amusé lorsque, dans la première édition du Destin de l'Univers, qui a été publiée en 2006 chez Fayard, j'avais une très belle critique dans Le Monde, qui disait que finalement, le Destin de l'Univers, pour le journaliste qui en faisait la critique, c'était un roman plus réussi que les romans d'histoire des sciences que je publié par ailleurs sur les grands esprits du passé, les Copernic, les Galilée, les Kepler. Voilà. Bon, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, mais en tout cas, c'est vrai que la forme littéraire que je donne et le contenu même du récit, c'est un extraordinaire roman. C'est le roman, en fait, d'essayer de comprendre cette chose qui, au départ, devrait être absolument incompréhensible pour notre petit cerveau, cette immensité cosmique. Et c'est un roman extraordinaire que de voir le cheminement de la pensée au cours des siècles pour arriver effectivement à cerner ces mystères de l'espace, du temps, les mystères de l'origine, et puis les trous noirs qui forment partie quand même le sujet essentiel de cet ouvrage, c'est les trous noirs.
La théorie des trous noirs primordiaux prédit la formation de trous noirs microscopiques ayant la taille d'une particule élémentaire mais la masse d'une montagne. À cette échelle interviendraient certains phénomènes de physique quantique, absents dans les trous noirs classiques, qui obligeraient ces mini-trous noirs à perdre de la matière. Un mini-trou noir s'évapore en émettant des particules et de l'énergie, et cela d'autant plus rapidement que sa masse est faible. Un trou noir de 1 tonne doit s'évaporer en 10 milliardièmes de seconde. Un trou noir de 1 million de tonnes subsiste 3 ans. Et un trou noir qui pourrait vivre plus de 14 milliards d'années, condition sine qua non pour que nous puissions l'observer aujourd'hui, doit avoir au minimum 1 milliard de tonnes. Un tel mini trou noir équivaut à la masse d'un astéroïde de quelques kilomètres concentré dans le volume d'un seul proton. Ça, c'est encore de vous, hein, Jean-Pierre Luminet. Oui. C'est l'article que vous consacrez au trou noir dans l'Encyclopédia Universalis, qui là encore, je dois dire, est un modèle de poésie, en tout cas dont la difficulté n'entame pas le plaisir de la lecture. Est-ce que le trou noir, la figure du trou noir ou la non-figure du trou noir ne concentre pas, d'abord n'est pas le lieu de passage vers les multivers dont vous parliez tout à l'heure, passer du trou noir aux fontaines blanches, ça c'est la première question. Et deuxièmement, est-ce que le trou noir n'est pas exactement le lieu où se concentrent la science, la religion et la poésie?
Science et poésie, certainement. Religion, ça, j'en suis moins sûr. Pour la première question, les trous noirs, dans l'acception première du trou noir, ça représenterait plutôt la fin de quelque chose. Par exemple, la mort d'une étoile massive, l'effondrement gravitationnel, la disparition de la matière et de l'énergie dans un puits de l'espace-temps. Mais les équations de la relativité qui s'intéressent, donc s'attachent à comprendre la structure des trous noirs, ont fait surgir quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire une entité, certes encore théorique, qui serait le symétrique temporel du trou noir, qui serait une fontaine blanche. Avec l'idée qu'on l'en fait lorsqu'un trou noir se forme,
de l'autre côté,
l'énergie qui tombe ne reste pas nécessairement coincée dans une sorte de nœud de l'espace-temps, mais pourrait rejaillir ailleurs dans l'univers sous forme d'un jaillissement d'énergie que l'on appelle une fontaine blanche. Et on voit toujours cette dualité, en fait, de la mort, de la naissance, le cycle mort-renaissance d'une certaine façon. À tel point que finalement, cette hypothèse des trous noirs fontaines blanches est utilisée dans certaines théories actuelles, précisément les théories du multivers. De façon à dire que peut-être l'univers avant le Big Bang a produit des trous noirs et notre univers à nous ne serait qu'une fontaine blanche, c'est-à-dire serait en fait le fruit, un bébé univers comme cela s'appelle, effectivement la théorie des bébés univers serait le fruit en fait de la formation d'un trou noir d'il y a par exemple 20 milliards d'années dans le passé qui donnerait naissance à un bébé univers qui serait notre univers d'aujourd'hui, étant entendu que dans notre univers d'aujourd'hui, on observe que des trous noirs se sont également formés par effondrement d'étoiles, par exemple, ou par d'autres processus, et que peut-être chacun de ces trous noirs forme des bébés univers dans d'autres dimensions. Voilà, c'est le modèle dit de l'univers auto-reproducteur qui ne peut se reproduire qu'en formant des trous noirs.
Je me demande paradoxalement si on n'est pas là dans l'anthropomorphisme de nouveau. Parce que quand on dit que toute mort conduit à la naissance à l'échelle humaine, on désanthropomorphise notre rapport au monde. Puisque l'homme qui prend ses désirs pour des réalités, c'est celui qui prend sa mort pour une catastrophe au fond. Et pour le soulager de ça et lui dire que la vie ne s'arrête pas à la sienne, on lui dit que s'il ne mourait pas, d'autres éléments ne pourraient pas naître. Et que donc mourir est une façon de participer à la perpétuation d'un renouvellement de toute chose. Donc, à l'échelle humaine, dire d'une mort quelle est la condition de la naissance, c'est, encore une fois, désanthropocentrer le monde. Mais en revanche, à l'échelle universelle, considérer qu'un trou noir débouche sur une fontaine blanche, je me demande si ce n'est pas une vue de l'esprit, pour le coup, typiquement humaine.
Alors, vue de l'esprit, c'est une vue de l'esprit en ce sens que la relativité générale, c'est une solution mathématique des équations de la relativité générale. La relativité générale, c'est une création de l'esprit humain. Ce n'est pas la vérité du monde. Voilà. Alors, maintenant, la relativité générale prédit un certain nombre de phénomènes dont certains ont été bel et bien observés et mis en évidence et puis d'autres ne le sont pas. Est-ce que parce que la théorie reste une vue de l'esprit ou est-ce que parce que ces phénomènes n'existent pas, ne peuvent pas se produire, ça on n'en sait rien. Alors, pour les trous noirs, au début, effectivement, la relativité générale prédisant l'existence des trous noirs, ça a heurté tellement les physiciens que pendant très longtemps les trous noirs ont été rejetés de la théorie et puis un jour on les a réellement mis en évidence indirectement. En revanche, les fontaines blanches aujourd'hui restent encore du domaine purement hypothétique.
On reviendra, vous reviendrez, Jean-Pierre Luminet, à coup sûr, nous parler des fontaines blanches. Un grand merci d'être venu nous voir ce matin.
Drifting through.
quelle autre chanson que celle-là terminer une telle émission en votre compagnie, Jean-Pierre Luminet. Le destin de l'univers, volumes 1 et 2, c'est en folio essai, c'est de vous. Et donc, qu'on soit physicien, astrophysicien, tout simplement néophyte et amoureux de la poésie, c'est un régal de lecture. Et puis, Les poètes et l'univers, c'est une anthologie que vous aviez constituée pour les éditions du Cherche Midi.
Wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Jackaroo David. Oh. Nothing's gonna change.
Les textes lus aujourd'hui par Georges Clès, c'est un extrait des Métamorphoses d'Ovide. Avant la mer, la terre et le ciel qui couvrent tout, la description du chaos selon Ovide, l'atome primitif de Raymond Queneau et quelques pages, quelques phrases de La pensée et le mouvant de Bergson. Sur France Culture, on a fini de traverser l'univers, on retrouve le journal des Nouveaux Chemins et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël. Quel est le point commun entre les couples Église et État, mariage et amour, forme et fond, vengeance et justice? Tous sont des couples de notions qui ont été, à un moment de l'histoire, séparés et semble-t-il, pour le mieux. Faire de la séparation un véritable moteur de la civilisation, c'est le projet du livre dont on parle aujourd'hui. Bonjour Paul Trouillas.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un livre sorti le mois dernier aux éditions Hermann intitulé « Séparation et civilisation » et dans lequel vous allez contre la connotation négative du terme de séparation pour y voir un processus culturel qui revêt une importance capitale dans l'histoire des hommes. Et vous allez même plus loin puisque vous affirmez que la séparation est le processus intime du progrès humain. Alors comment faut-il comprendre cela, Paul Trouillas?
Eh bien, c'est l'un des processus possibles. Il y en a bien d'autres, le progrès économique, le progrès technologique. Mais cette émission elle-même démontre l'importance de la séparation. Au XVIIe siècle, Monsieur Luminet n'aurait pas pu s'exprimer librement. Le Vatican aurait téléphoné, les autorités protestantes aussi. Et c'était le temps de Descartes, le temps où, quand on faisait de la science, il fallait rendre compte à la religion. Et cette confusion de la religion et de la science montre bien l'importance de la séparation, montre bien l'importance des penseurs qui ont défendu la séparation de la science et de la religion.
Alors vous avez employé le terme de confusion, c'est important puisque le terme de séparation tel qu'il faut l'entendre hein, quand vous l'utilisez dans votre livre, le terme de séparation n'est pas l'inverse s'oppose à la confusion. La séparation est le contraire de la confusion. Donc, lorsqu'il s'agit de séparer, il s'agit en fait de distinguer clairement, hein, là on revient à Descartes, des notions entre elles afin d'aller contre cette confusion qui est néfaste.
Tout à fait. La séparation telle que je l'envisage, c'est une séparation culturelle, c'est une rupture intellectuelle. Ce n'est pas le contraire de la construction, de la fédération. Par exemple, la construction européenne est très positive, mais elle se conçoit comme séparée de la religion. D'ailleurs, dans le préambule de la Constitution, elle se sépare de ses origines chrétiennes. C'est très important pour l'Europe actuelle.
Alors, vous prenez plusieurs exemples hein, de confusions qui ont été néfastes dans l'histoire. La confusion de la religion et du droit hein, qui a été au fondement de l'Inquisition. La confusion de la vie militaire et de la vie politique, par exemple. Et là, vous citez l'Espagne franquiste. La confusion de l'art et de la politique. La confusion des théories scientifiques et de la politique. Donc, vous abordez hein, tout un de nombreux exemples concrets que vous citez dans votre livre. Et vous incitez notamment sur l'importance du XVIIIe siècle. Vous montrez que le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, pardon, fut le grand siècle séparateur.
Oui, il y avait un certain nombre de nœuds gordiens, mais déjà dès le XVIIe, au XVIIe, il y avait cette confusion entre la religion et la science. Et Galilée en a souffert, vous savez, la religion prétendait que la Terre était le centre de l'univers et les scientifiques ont prétendu que c'était le soleil. Galilée est allé devant ses juges religieux pour cela et Descartes, dans le discours de la méthode, s'inquiète des pressions qu'il pourrait subir en publiant son traité du monde. Et il va voter avec ses pieds en quelque sorte, il va aller en Hollande où on était plus libre de publier. Et dans le discours de la méthode, il va prononcer cette séparation entre la raison. Il va exiger d'ajuster toutes ses connaissances à la raison et séparer des autres types de pensées, dont la pensée religieuse. Et on le traitera d'athéisme. Alors au XVIIIe, évidemment, nous avons Montesquieu et Voltaire, et nous avons ce problème de la monarchie française qui mêle un peu tout, qui mêle l'exécutif, le législatif, le judiciaire, le magique, puisque le roi peut encore guérir les écrouelles tuberculeuses, le militaire et le religieux, puisqu'il est de droit divin.
Et alors, à côté du terme de séparation, il y a un autre terme qui est très important dans votre livre, c'est le terme de liberté, puisque vous montrez que les séparations, au pluriel, hein, les nombreuses séparations qui ont eu lieu, à chaque fois fournissent de nouveaux espaces de liberté. Quel est le lien entre, d'un côté, la séparation et la liberté ?
Eh bien, il y a des conditions de la liberté. Les voies de la liberté, c'est le grand mérite de Montesquieu, de montrer que la séparation des pouvoirs crée la liberté. Si le pouvoir exécutif est confondu avec le pouvoir judiciaire, eh bien, le chef du pouvoir exécutif peut poursuivre les citoyens et abolir leur liberté. Donc la liberté jaillit de la séparation, de cette coupure entre l'exécutif et le judiciaire. C'est un problème général de la planète, de l'histoire contemporaine, qui est capital. La liberté ne se déclare pas comme ça. Il faut des conditions politiques et intellectuelles de la liberté. Et d'une certaine façon, la séparation, c'est le langage machine de la liberté.
Donc est-ce que c'est en ce sens qu'il faut comprendre l'association que vous faites entre séparation et civilisation ?
Bien, mon Dieu, civilisation, on a donné beaucoup de termes, beaucoup de définitions de la civilisation, mais certainement que des sociétés qui font la part des choses, qui distinguent bien les domaines, qui distinguent bien la religion, la science, le droit, le judiciaire, la vie privée, ces sociétés sont, dans mon esprit, plus civilisées que les autres. Et donc, à cet égard, la séparation me paraît une des conditions de la civilisation.
Alors, si l'on s'arrête un moment là-dessus, sur cette notion de séparation comme étant la condition peut-être d'une forme de civilisation, en tout cas d'un progrès, et vous l'avez dit, de liberté, est-ce que cette théorie de la séparation ne va pas contre la théorie de la fin de l'histoire, notamment, hein, affirmer que, là je pense à Fukuyama évidemment, montrer que depuis la chute du mur de Berlin, hein, les antagonismes qu'on pouvait considérer comme étant les moteurs de l'histoire n'ont plus lieu d'être, et donc après la conquête mondiale de la démocratie et l'abandon du communisme au profit du capitalisme, l'histoire est finie et tous les événements sont désormais post-historiques.
Eh bien, justement, à chaque moment, il existera dans l'avenir de nouvelles confusions, des confusions qui sont proposées par des philosophies de confusion. Et il y a toujours nécessité de philosophie de séparation. Au moment où nous parlons, nous avons Liu Xiaobo qui est dans une prison, qui veut la séparation des pouvoirs en Chine, n'est-ce pas ? Et il y a une philosophie de confusion qui s'oppose à lui. Et il y aura toujours des philosophies de confusion qui s'imposeront, et toujours des libertés à conquérir. Après une liberté, au-delà d'une liberté, il existe une autre liberté.
Merci beaucoup Paul Trouillas. Le titre de votre essai, c'est « Séparation et civilisation » et on trouve ça aux éditions Hermann.
Et au-delà d'un livre, il existe toujours un autre livre, Adèle.
Et oui, il est bientôt 11h, mais peut-être que certains d'entre vous se réveillent à peine et sont encore au lit. Alors pour bien commencer la journée, je vous propose de petit déjeuner avec Socrate. Ou en tout cas avec le livre qui porte ce titre et qui va bientôt envahir les librairies, à en juger de l'immense succès qu'a rencontré ce livre dans son édition originale en anglais. L'auteur est Robert Roland Smith, ancien professeur à l'université d'Oxford et actuellement chroniqueur à la BBC. Et il propose dans ce livre de partir du rythme quotidien d'une journée normale et d'y associer des réflexions de philosophes. Dès le réveil, vous pouvez vous demander avec Descartes si vous êtes bel et bien réveillé et si le fait de se réveiller n'est pas lui-même un effet du rêve. Puis plus tard, dans le métro, c'est Hobbes qui sera de bon conseil au moment de lutter pour trouver une place assise. Et la journée continue, le shopping avec Lacan, lire un livre, se disputer avec son compagnon, s'endormir et rêver. Tels sont les chapitres qu'on trouve dans ce livre. Alors, il y a beaucoup de livres de ce genre en ce moment en librairie, beaucoup de tentatives d'ancrer la philosophie dans les expériences quotidiennes. Mais si j'étais libraire, je placerais ce livre au sommet de la pile qui regroupe les ouvrages de ce genre, car c'est un vrai bonheur à lire, truffé d'humour britannique que je trouve irrésistible.
Shopping avec Lacan, ça fait envie. Raymond Queneau, Ovid Bergson et le shopping avec Lacan. Donc, c'était La Traversée du jour, une émission que vous pouvez retrouver sur Internet où vous attendez le téléchargement des émissions de la semaine, l'écoute en ligne des émissions du mois et, bien sûr, une bibliographie pour faire votre shopping. On se retrouve demain pour la suite de cette semaine sur les origines après l'astrophysique. Et avant d'y revenir, on parlera demain du roman biblique en compagnie de Pierre Gibert. La Bible, après tout, est-elle une tentative comme une autre d'escalader le mur de Planck? On verra ça, la Genèse, les Genèses, c'est demain. Et un grand salut au terme de cette émission à notre nouveau stagiaire, Julien Tricard, qui a largement déjà contribué à préparer cette semaine sur les origines. Bienvenue Julien, et déjà donc, merci. 10h59 sur France Culture.